Bonjour, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et c'est l'heure de l'hebdo, toujours enregistrée quelques jours avant. Aujourd'hui, notre émission se penche sur cette crise économique qui arrive et nous avons invité Michel Husson qui est économiste. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour Michel. Alors, comment faire reculer la pandémie tout en évitant de mettre l'économie à l'arrêt ? Voilà la catastrophe qui nous est tombée sur la tête, semblent nous dire nos dirigeants politiques et nos experts en économie. Tout en cherchant à poursuivre leur projet malgré l'épidémie, en prenant des assurances quand même, telles que la suspension des pans entiers du Code du travail, pour qu'une fois passées les coûteuses mesures d'urgence, l'économie puisse rebondir, redémarrer comme avant, même mieux. Mais il n'y a pas de catastrophe. Loin de constituer une catastrophe, l'émergence et le déploiement mondial du Covid-19 s'enracine dans les modes de production capitalistes et notamment dans les productivisme qui lui inhérent. Alors Michel, nous allons revenir avec toi sur cette crise qui ne ressemble à rien de vraiment connu dans l'histoire du capitalisme et nous verrons si le retour aux fondamentaux du néolibéralisme est le seul horizon de la sortie des crises, comme nous le disent nos dirigeants, ou si la sortie dépendra des réponses aux questions profondément politiques plutôt qu'économiques qui sont posées par la crise en cours. Alors Michel, est-ce que nous disions, on vient de dire que cette crise ne ressemble en rien des connues dans l'histoire du capitalisme. Tu peux nous parler de quelle est la logique et les mécanismes de cette crise et en quoi elle est inédite?
Cette crise est manifestement inédite parce qu'elle se traduit par un arrêt de l'économie lié au confinement et lié au risque entraîné par l'épidémie de coronavirus. En plus, elle est mondiale. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est très difficile à analyser par rapport aux crises précédentes. Enfin, je ne dis pas que l'analyse des crises précédentes était si facile que ça. Mais dans ce cas-là, on a une interaction entre des effets économiques et sociaux évidents, et puis une crise sanitaire qui n'a pas eu de précédent à cette échelle. Il y a eu des crises sanitaires plus localisées dans les pays du Sud, donc ça intéressait moins les pays du centre de l'économie mondiale. Mais ce qu'il faut penser, à mon avis, alors je vais commencer par quelque chose qui est un petit peu à rebours de l'introduction, à savoir que, d'une certaine manière, cette crise est tellement particulière qu'elle est séparée, si vous voulez, elle n'est pas le produit des contradictions du système capitaliste comme pouvaient l'être les crises précédentes. Elle est un choc infligé à ce système-là, qui est en partie, oui, effectivement, lié au productivisme, lié à l'exploitation des forêts, lié à la destruction de la biodiversité, etc. Mais fondamentalement, même si l'économie était un corps sain, elle aurait quand même souffert de cette crise. Alors pourquoi elle est particulière ? C'est que, contrairement aux précédentes, par exemple, ce n'est pas une crise de la finance. La crise n'est pas née dans la finance et ensuite se serait transmise au reste de l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire celle de l'activité économique matérielle, concrète, etc. Ce que cette crise a d'inédit, pour reprendre l'expression des économistes traditionnels, c'est qu'elle combine à la fois un choc d'offres et un choc de demande. Le choc d'offres, ça veut dire que la production est arrêtée en grande partie, et le choc de demande, ça veut dire que la demande, c'est-à-dire la consommation, est elle aussi arrêtée en grande partie parce que les magasins sont fermés, les gens sont confinés chez eux, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du capitalisme. En général, les crises ne combinent pas les deux aspects. Mais d'une certaine manière, ça révèle aussi le côté artificiel de cette distinction, parce qu'il faut considérer le capital, comme le faisait Marx, en termes de schéma de reproduction, c'est-à-dire l'idée que le capital, sous ses diverses formes, marchandises, argent, etc., est en train constamment de circuler. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une espèce d'embolie dans le système, c'est-à-dire que le capitalisme est bloqué à toutes les étapes, disons, de ce circuit. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la nature de cette crise. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on est obligé de l'analyser d'une manière différente des autres crises, parce qu'on combine à la fois deux choses, c'est-à-dire la crise sanitaire, et d'une ampleur absolument extraordinaire, et son impact sur la crise économique. Donc, il faut, à mon avis, c'est ça la difficulté, c'est de ne pas plaquer complètement les schémas traditionnels d'analyse des crises sur cette crise spécifique-là.
Est-ce qu'on pourrait donner, je ne sais pas si peut-être, je n'ai pas bien suivi ta réponse, est-ce que ça ne peut pas donner une lecture dans l'essence de la contradiction fondamentale du capitalisme entre la production et la reproduction, c'est-à-dire comme étant la reproduction de la force de travail, en fait, comme une limite interne au système?
Alors on peut tout à fait analyser de ce point de vue-là, mais encore une fois, en général, les crises ne portent pas sur l'intégralité de cette reproduction du système. C'est-à-dire, par exemple, les crises dites de sous-consommation, c'est quand il n'y a pas assez de débouchés pour vendre les marchandises qui ont été produites. Donc on n'arrive pas à réaliser, comme pour reprendre l'expression classique, on n'arrive pas à réaliser la plus-value qui a été produite dans l'usine, dans l'entreprise, parce qu'on n'arrive pas à vendre. Et puis, il y a aussi des crises d'offres où, parce que le taux de profit baisse, la rentabilité n'est pas suffisante, l'investissement va ralentir, l'activité économique va ralentir, et donc on a une crise qui est plutôt du côté de l'offre. Là, dans cette crise-là, on a les deux en même temps. C'est ça qui fait que, bien sûr, on peut utiliser les concepts traditionnels de l'analyse marxiste ou même de l'analyse, disons, keynésienne, mais en même temps, on est dans une situation inédite où ces facteurs-là se combinent d'une façon qui a jamais eu vraiment lieu, si ce n'est peut-être, si on compare à des périodes de guerre, etc., mais dans le fonctionnement, disons, habituel du capitalisme, c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Eh bien, donc, avant cette crise sanitaire, déjà, bon, la situation économique n'était pas très brillante. Alors, et on vivait un peu sur les conséquences de la crise financière qu'on a connue en 2007-2008 et qui a perduré jusqu'à maintenant dans la zone euro. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le bilan de cette crise financière qu'on a également subie auparavant?
Bah c'est difficile à faire en quelques minutes, mais l'idée générale, c'est que d'une certaine manière, la crise financière précédente, qui était plus qu'une crise financière d'ailleurs, était le révélateur des contradictions du capitalisme sous sa forme néolibérale. Le bilan qu'on peut tirer, il y a eu un ralentissement de l'économie, il y a eu un rattrapage inégal, etc. Il y a eu ça a été l'occasion aussi d'offensives, disons, antisociales. Mais fondamentalement, l'idée générale, c'est que, d'une certaine manière, les mêmes contradictions qu'avait le capitalisme néolibéral avant la crise financière se sont maintenues, ont été reproduites, et que, effectivement, avant l'explosion du coronavirus, on allait vers probablement un ressurgissement de ces contradictions sous forme d'une crise, etc. Je pense que, personnellement, l'analyse que je fais, c'est que derrière tout ça, il y a le fait que le capitalisme, depuis plusieurs décennies, est en train de perdre ce qui fait sa force habituellement, à savoir sa capacité à dégager des gains de productivité du travail. C'est-à-dire, autrement dit, dans une heure de travail, on produit plus de valeur, on produit plus de biens et de services, etc. Là, il y a eu un ralentissement tendanciel qui est très net, et on a essayé, le capitalisme financiarisé, a essayé de compenser cet effet-là par des politiques antisociales, c'est-à-dire la baisse de la part des salaires, par la financiarisation, par les politiques de crédit, etc. Tout autant de dispositifs qui conduisaient à une instabilité du système et à son exposition à une nouvelle crise. Cela dit, d'une certaine manière, encore une fois, cette crise-là a quelque chose de spécifique. Évidemment, pour prendre une image, le coronavirus ne s'attaque pas à un corps qui était sain. Mais malgré tout, même s'il avait été en meilleure santé, je veux dire, la crise aurait eu un impact tout à fait extraordinaire. Donc le danger, alors effectivement, il faut tenir compte de ce qui venait avant, mais le danger est disons, de dire que cette crise-là est dans la continuité, disons, d'une certaine manière, des crises précédentes. Et c'est important aussi, on y reviendra peut-être, parce que la prise en compte de cette nature de la crise actuelle est tout à fait décisive pour comprendre, imaginer ce qui peut se passer après.
Michel, tu viens de nous parler de la crise précédente 2007-2008 et le fait qu'on a reproduit la même cause qui l'avait causée. Mais là, un des articles que tu as écrit dans la revue À l'encontre, tu nous dis que pour cette crise-là, justement, le capitalisme a été drôlement frappé, touché, et qu'il y a des mécanismes qui feront qu'il y aura du mal à redémarrer et comme on l'avait fait par le passé dans d'autres crises. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces mécanismes qui vont freiner la reprise économique ?
Oui, alors c'est comme je disais tout à l'heure, le circuit a été bloqué et donc il s'agit de le remettre en marche. Bon, alors l'hypothèse favorable, c'est de dire, bon, bah, ça a été bloqué comme si on avait pris des jours de congé et puis on redémarre comme avant. Or, il y a plusieurs raisons pour penser que ce n'est pas possible. Alors, dans le désordre, c'est un, il y a des entreprises qui ont fait faillite et qui ne pourront pas redémarrer par définition. Deux, il y a des chaînes de valeur, c'est-à-dire la manière dont on s'approvisionne à travers le monde, etc., qui sont désarticulés, déséquilibrés, parce que tous les pays ne vont pas repartir de la même manière, parce que les grands groupes multinationaux se reconvertissent en cherchant ailleurs des fournisseurs parce que certains leur ont fait défaut, etc. Donc tout ça prend beaucoup de temps à se remettre en marche. Troisièmement, alors là, il y a aussi une autre hypothèse qui justement est de l'ordre du sanitaire, si on peut dire, c'est de savoir est-ce qu'il y a effectivement, oui ou non, une possibilité de deuxième vague avec des reconfinements possibles. Alors, cette hypothèse ne peut pas être complètement exclue. Elle semble perdre, heureusement d'ailleurs, de son actualité, puisque en tout cas en Europe, les courbes qu'on observe se retournent, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est que une partie de la population, pas la majorité, mais une partie a été ruinée, on y reviendra, ça c'est les effets sociaux, et leur consommation ne va pas redémarrer. Et puis, pendant un certain temps aussi, il va avoir l'inquiétude, disons, même si ce n'est pas avéré, l'inquiétude qui va faire que les gens ne vont pas consommer de la même manière et vont hésiter à reprendre à plein temps leur activité. En plus, les habitudes de consommation, les préférences vont peut-être changer, l'incertitude va faire qu'un certain nombre d'achats vont être reportés, etc. Et quatrièmement, il y a le risque de retour de mesures, alors on y reviendra peut-être plus en détail, mais des mesures qui vont être du point de vue des capitalistes, en gros, de rétablir leur rentabilité, mais ça va forcément passer aussi par une baisse du pouvoir d'achat, des dépenses sociales, etc., et avec l'effet que ça peut avoir sur la qualité de la reprise. Donc, si vous voulez, l'histoire, enfin, tous les organismes économiques officiels, comme la Commission européenne, le FMI, etc., parlent d'une reprise, comme les économistes disent, ils prennent des lettres comme modèle de la forme que ça peut prendre, donc ils postulent une reprise en V. Hein, c'est-à-dire le V, c'est-à-dire la première branche, il y a la chute, et puis hop, ça redémarre et on se retrouve à peu près au même niveau qu'on était avant. Donc, quand vous prenez par exemple les prévisions pour la France, c'est moins 8% en 2020 et puis plus 5 ou 6% en 2021, ça dépend des organismes qui font ces prévisions. Je pense que cette hypothèse-là, elle doit être récusée, quoi, et qu'on ira plutôt vers une reprise. Certains disent en L, d'autres utilisent le sigle d'une célèbre marque de chaussures de sport, c'est-à-dire une chute et puis une reprise très lente, graduelle et éventuellement hésitante. Et on pourrait même imaginer, si vous voulez, que s'il y a des reconfinements, etc., on a une espèce de cycle, d'oscillation qui viennent au fait que périodiquement, de nouveau, hop, il y aura des petits arrêts de production. C'est pas forcément vrai partout, mais c'est quelque chose qui va introduire des déséquilibres parce que ça va probablement se passer dans un certain nombre de pays.
Alors, si on revient véritablement sur la France, donc tu as parlé par exemple du PIB qui a subi une baisse de 6% avec une prévision de 8%.
Non, c'est le contraire, c'est 8% de baisse à virer pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse pour l'ensemble de l'année 2020. D'accord. Et il y aurait 5 ou 6% en 2021.
D'accord, une petite erreur de ma part. Donc, il y a cette histoire de PIB, de produit intérieur brut. Alors, ça a toujours, effectivement, ça peut avoir des conséquences quand même. Ce type de baisse a des conséquences quand même sur l'emploi, le pouvoir d'achat.
Ah ben évidemment.
C'est peut-être porte ouverte de le dire, mais c'est vrai qu'on peut dire que cette pandémie, finalement, ça peut être le prétexte de dire, le produit intérieur brut a baissé. Fatalement, ça va s'attaquer à l'emploi et au pouvoir d'achat des salariés.
Oui, alors, mais il faut prendre les choses peut-être en regardant justement la réaction différente selon les pays. Si vous voulez, alors je vais faire l'avocat du diable, mais dans la plupart des pays européens, on a introduit des mesures compensant la baisse de l'activité, et en particulier le chômage partiel en France, où les salariés au SMIC touchent 100% du SMIC et au-delà touchent 84% de leur revenu. Donc, il y a dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, la compréhension qu'on doit éponger, amortir le choc et ne pas flanquer tous les gens à la rue sans revenu, etc. Alors, ça marche en gros, mais ça laisse de côté toute une série de gens précaires, etc., ce qui explique qu'on a des files d'attente devant l'équivalent des restaurants du cœur, avec des initiatives assez extraordinaires d'ailleurs de distribution de nourriture, etc. Cela dit, si on contraste ça avec ce qui se passe aux États-Unis, les États-Unis, c'est d'une violence absolue. C'est-à-dire que les gens dont l'entreprise est arrêtée, c'est la tradition là-bas, ils sont virés. Et ils perdent non seulement leurs revenus, mais aussi leur droit à la santé, ce qui, dans les circonstances actuelles, est particulièrement dramatique. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite, hein, c'est-à-dire, jusqu'à quand on va conserver ce type de mesures et jusqu'à quand les États, notamment européens, sont prêts à soutenir la demande, c'est-à-dire éponger la chose. Alors, c'est là qu'on voit, enfin, vous le disiez en introduction, c'est là qu'on voit que la question va être sociale et politique plus qu'économique. C'est-à-dire parce qu'on voit déjà se profiler ce que veulent ce que veut le patronat, en gros, c'est pouvoir assainir ses comptes sur le dos des salariés. Hein. C'est-à-dire, vous avez vu passer probablement les discours sur la mise en cause des 35 heures, c'est-à-dire on fera travailler les gens plus longtemps, ce qui veut dire que le salaire horaire va baisser. Il y a l'idée aussi qu'au bout d'un certain temps, il faudra bien licencier et assainir les choses. Donc ça va être un des enjeux qui n'est pas immédiat, hein, mais ça va être un des enjeux dans quelques mois, selon l'évolution de la situation, mais ça va être un enjeu qui est de récupérer, en termes de profitabilité, ce qui a été perdu aussi du côté des entreprises, du patronat, et ils ont perdu énormément. Hein, c'est-à-dire le taux de marge des entreprises a perdu 3 points, enfin bon, c'est un peu technique, mais ça veut dire que c'est un recul sévère de leur rentabilité. Et si vous voulez, on est dans une situation où tout s'imbrique, parce que comme ces entreprises ont perdu du profit, comme ces entreprises qui étaient déjà beaucoup très endettés ont dû se réendetter pour passer le cap, ils vont se trouver dans une situation où leurs comptes sont dégradés du point de vue de la rentabilité, du point de vue de la, disons, de l'équilibre financier des boîtes. Et donc, par conséquent, la tentation va être de rééquilibrer pour se désendetter, pour rétablir la rentabilité sur le dos des salariés. Mais aussi, et c'est pour ça, c'est un élément que j'aurais dû citer tout à l'heure, mais aussi en freinant l'investissement, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Et le seul poste qui probablement survivra inchangé, c'est malheureusement peut-être celui de la distribution de dividendes dans une logique qui est celle du capitalisme contemporain.
Parce que, des entreprises, des grosses entreprises comme Air France ou Renault, là, vont bénéficier d'aides financières, 3 milliards pour Air France, 8 milliards pour Renault. Pour autant, Renault indique qu'il va fermer quand même 5 000 postes.
Oui, alors là, on retrouve une question qui est absolument clé. Et qu'on avait déjà, c'était déjà le cas lors de la précédente crise, donc de celui-là, c'est très classique. On renfloue les entreprises, comme on a renfloué les banques au moment de la crise financière, mais on n'y met absolument aucune condition, sauf des conditions rhétoriques qui ne seront pas respectées. Le maire promet des choses un jour, deux jours après, il dit que finalement, bon, on peut s'arranger, etc., qu'on n'a pas à s'immiscer dans les affaires de gestion des entreprises. Par exemple, sur Air France, on pourrait imaginer des compensations en termes de environnementaux qui, à mon avis, ne résoudront pas le problème du point de vue d'Air France. Pour l'automobile, c'est pareil. Il y a des conditionnalités à trouver, et notamment en termes de contrôle sur les délocalisations, en l'occurrence, que Renault envisage pour rééquilibrer ses comptes, c'est-à-dire aller travailler, aller faire produire là où c'est moins cher. Donc la question clé, mais ça c'est vraiment une question de rapports sociaux, c'est est-ce que l'État qui est au service des entreprises ne pourrait pas, enfin rêvons un peu, ne pourrait pas mettre certaines conditions aux aides que par ailleurs on peut juger indispensable pour empêcher l'économie de s'écrouler totalement. Bon, c'est comme de la même manière, quand on a aidé les banques, ça a évité une catastrophe financière qui aurait été d'une encore plus grande ampleur. Donc on peut être raisonnable et dire c'est pas absurde de leur aider à faire passer le cap, mais c'est l'occasion d'y mettre des conditions. Et ça, c'est l'un des points forts, disons, dans la manière dont on peut sortir de cette crise, c'est que cet État fait la preuve qu'il est au service du capital, pour prendre une expression un peu galvaudée, parce qu'il se refuse à profiter de ce qui est pour lui une occasion, à savoir de dire, bon, ok, on vous aide, mais telle condition. Dans la manière dont vous essayez de sortir de la crise.
Il est un produit merveilleux, expérimenté par la science, et qui pour nous les miséreux fera naître la dépendance, tant mieux s'il éclate parfois. Chez nos ennemis les bourgeois, cela nous venge de leur crime. Placez une marmite bourrée de dynamite, quelle que soit la maison, en faisant explosion, oh comme elle ira vite. Il n'y a rien de meilleur que la dynamite. On guillotinera Vachon, un copain qui avait de l'envergure. Aujourd'hui c'est un Espagnol qu'on fusille pour son allure. Palace montrera son tour qu'il était un homme invincible. En plus, il promettait qu'un jour la vengeance serait terrible. Vive la dynamite, puisque l'on nous irrite. À chaque exécution, nous mettrons en action notre arme favorite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite. Vous pourrez dresser l'échafaud, la potence et la guillotine. Nous avons ce qu'il nous faut pour vous faire sauter en sourire. Si vous croyez que ça finira, vous êtes loin de votre affaire. Pour un homme qu'on nous tuera, nous en foutrons 500 par terre. Avec la dynamite, nous répondrons de suite. Caserneuses et prisons, sans flûte, sans violon, danseront au plus vite. Car pour semer la terreur, il n'y a rien de meilleur que la dynamite.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, à l'écoute de l'hebdo aujourd'hui qui s'intéresse à la crise économique qui arrive, et nous avons comme invité Michel Husson, qui est économiste.
Et Michel, qui a évoqué le fait que les dettes, les entreprises étaient déjà très endettées avant la crise, mais un autre impact immédiat de ces crises, et c'est aussi sur la dette publique, au fait qu'il y a une augmentation des déficits. Alors, comment cette dette publique est constituée et qu'on pourrait être remboursé? En fait, la question est qui va payer.
C'est une très grosse question qui anime beaucoup les débats entre économistes, entre institutions internationales, etc., ou la Commission européenne, la Banque centrale européenne. Alors, le fait que la dette augmente, c'est inévitable, c'est-à-dire que les ressources fiscales diminuent puisque l'activité diminue, et en même temps il y a toute une série de dépenses qui servent à éponger la crise. Donc dans tous les pays on a un bond en avant de la dette publique. Alors maintenant le débat est le suivant: est-ce qu'on va gérer cette dette publique comme avant, c'est-à-dire en faisant les yeux doux aux marchés financiers pour qu'ils acceptent de financer? Est-ce qu'on va recommencer l'erreur qui a été commise en 2011 à peu près, consistant à refaire de l'austérité pour faire diminuer la dette, avec le cas limite de la Grèce? Donc toutes ces questions sont posées. Alors ce qui est sur la table et qui est nouveau quand même, c'est deux idées. C'est d'une part la mutualisation, donc c'est la proposition que pas mal de gens ont fait de corona bonds, c'est-à-dire d'obligations qui seraient émises spécialement par rapport aux dépenses liées à cette crise-là, et donc qui seraient émises non pas pays par pays, mais en tant que dette européenne. Et donc c'est quelque chose qui a déjà, c'était déjà dans l'air, on parlait d'eurobonds, bonds ça veut dire obligation, c'est le bond du trésor pour aller vite. Ça avait été refusé en raison de l'orthodoxie budgétaire et puis du fait que chaque pays doit régler ses comptes dans son coin et il n'y a pas de mutualisation qui soit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est posé par plein de propositions et ça a été mis en avant, notamment il y a une proposition qui était très intéressante du gouvernement espagnol qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais il y a eu aussi le plan Macron-Merkel dont on peut penser ce qu'il veut, mais qui brise d'une certaine manière un tabou en proposant effectivement que la dette soit gérée globalement, communautairement, si on peut dire, et pas état par état. La deuxième idée qui est dans l'air et qui fait, enfin, qui crée des débats très, très animés parmi les supposés spécialistes de la question, c'est l'idée de la monétisation. C'est-à-dire, en gros, que la Banque Centrale Européenne prenne en charge directement une partie de la nouvelle dette sur son bilan en émettant de la monnaie, etc. Et ça, c'est un autre tabou. Bon, elle le fait déjà en partie, mais l'idée, ça serait de systématiser ça et d'en faire un mode de gestion de cette nouvelle dette. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont à la fois des enjeux politiques, des enjeux de relations entre États. Par exemple, en Europe, on distingue les quatre pays frugaux autour de l'Autriche, le Danemark, etc., qui sont arc-boutés sur l'idée qu'ils ne veulent pas payer pour ceux qui ne sont pas suffisamment économes et prudents dans la gestion de leur dette. Le fait nouveau, c'est quand même que Merkel se soit rallié, ça a été co-déterminé, et entériné en tout cas cette proposition, parce que, encore une fois, elle va à l'encontre des tabous orthodoxes. Je pense que, personnellement, le fond de l'affaire, c'est qui va encore un petit peu plus loin, c'est deux choses. C'est d'une part, il faudrait abandonner dans l'idéal. La question qui se pose, c'est celle de la dépendance par rapport au marché financier. Parce que quels que soient les dispositifs retenus, il y a en fin de course cette dépendance des marchés financiers. Alors, on essaye de s'en dégager en ce qui concerne la nouvelle dette, en somme, celle qui est liée à cette crise, mais on ne s'en dégage pas totalement parce que toute la dette précédente accumulée, elle est en fait renouvelée chaque année, c'est-à-dire qu'on ne la rembourse pas, mais on se réendette pour rembourser. Et donc, on est à ce moment-là, au moment où on se réendette, on reste sous la coupe des marchés financiers. Donc, on n'en est pas sorti, et je pense que c'est un des enjeux, permettant de définir des politiques économiques qui soient un petit peu autonomes par rapport aux marchés financiers. Et le second aspect, c'est la question de la réforme fiscale, c'est-à-dire en gros faire payer les riches. Et ces deux questions sont liées parce que d'une certaine manière, la montée des dettes a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais en particulier, il y en a un qui est le fait que toutes les politiques néolibérales ont consisté à défiscaliser, c'est-à-dire à faire baisser leurs recettes fiscales et à la remplacer par l'endettement auprès des mêmes, c'est-à-dire que les riches qui ont profité, ou les entreprises qui ont profité principalement de ces baisses d'impôts, sont les mêmes qui vont financer via la dette et imposer à travers ce pouvoir-là l'orientation des politiques qui sont menées au niveau des États. Donc il y a un ensemble qui est tout à fait important, et qui consiste à aller de l'avant vers des formes d'annulation de la dette, de désenclavement de l'économie par rapport au marché financier, et puis de réforme fiscale. Mais tout ça, c'est, quand on y regarde un peu, c'est un paquet qui a sa logique structurelle, c'est-à-dire que tout communique.
Cette histoire de plan d'aide, en fait, fatalement, il va falloir, il y a donc un remboursement auquel il faudra penser, mais ça a également des conséquences économiques sur les populations, également en termes d'emploi, une fois de plus, en termes d'emploi, de pouvoir d'achat, de protection pour les plus précaires. Alors, quelles conséquences ça peut avoir, ce plan d'aide sur nous?
Ben, c'est toujours le problème, ça dépend. Ces plans d'aide sont, enfin, en partie à l'aveugle. C'est-à-dire que l'argent que va injecter les banques centrales, enfin la Banque Centrale Européenne, risque de profiter, aux actionnaires, va faire monter les titres financiers, etc. Et donc là encore, on trouve la question de la conditionnalité ou en l'occurrence du ciblage. C'est pour ça que ce qui naît et qui serait positif, c'est d'une part dans la mutualisation, il y a l'idée quand même qui est assez forte, c'est qu'on va aider plus les pays qui ont été plus durement frappés par la crise en Europe. Donc on va s'éloigner d'une règle qui est que l'aide doit être proportionnelle à ce qu'on a mis dans la cagnotte, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque pays ne peut s'endetter, ne peut profiter de ses endettements garantis en somme par l'Europe qu'à proportion de leur propre contribution. Là, cette règle, en tout cas dans la proposition Merkel-Macron, cette règle-là aussi est enfreinte et elle est déjà en pratique dans les politiques de rachat des titres publics de la BCE. Donc il y a quand même là une idée aussi intéressante, positive, si vraiment elle était menée jusqu'au bout, de proportionnalité non pas à la richesse de chaque pays, mais à ses besoins finalement. Mais l'autre aspect, c'est encore une fois la conditionnalité. Et c'est pour ça qu'un des projets, si on est vraiment optimiste, il y a le projet de ce qu'on appelle le Green New Deal, etc. C'est-à-dire que cette distribution d'argent devrait à terme servir de soutien à des politiques vertes, disons, d'investissement dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc.
Est-ce que penses vraiment qu'on prend ce chemin-là?
C'est une autre question.
Ah oui, j'ai l'impression.
On va revenir sur cette question justement un peu plus tard.
Mais si vous voulez, pour continuer là-dessus, l'aspect pessimiste, c'est de dire il y a deux manières de voir les choses. Bon, on peut dire de manière très pessimiste, ils se sont tellement endettés que l'histoire de s'endetter en plus pour faire des investissements de type environnementaux, pour aller vite, ça va être reporté au calendrier grec, quoi. Ils ont leurs priorités. Ça, c'est la vue pessimiste. La vue optimiste, encore une fois, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est de dire justement il faut profiter de l'occasion pour que ces investissements soient ciblés dans ce domaine-là. Alors effectivement, on y reviendra, mais par exemple, pour prendre un exemple, si on aide l'industrie automobile, une des conditionnalités, ça serait l'investissement dans la recherche de voitures hybrides ou électriques, etc. Et par exemple, Renault c'est connu, n'a pas bien pris le tournant là-dessus, est en retard, etc.
Oui. Julia, je te laisse la parole.
Non, je voulais un peu continuer dans ce sens-là, parce qu'effectivement, les Nériens ne sera plus comme avant, se multiplient, mais en fait, quelles sont les voies qui les responsables, quelles sont les voies qui s'ouvrent, entre guillemets, de la classe dirigeante. Tu les as évoqués, grosso modo, c'est retrouver rapidement les fondamentaux du néolibéralisme, ou sinon une espèce d'aménagement à la marge et des systèmes avec des relocalisations de certaines activités et même, effectivement, on pourrait, et certains aspects même sociaux. Mais la troisième voie, est-ce que tu avais commencé à évoquer, et c'est vers une transition écologique et sociale. Mais il y a aussi une autre voie possible qui soit le repli national et sécuritaire.
Oui, mais...
En fait, il y a le rapport des forces qu'il faut voir comment il va pencher.
Ben, c'est absolument ça. Et alors après, on peut avoir des intuitions. Mais effectivement, il y a... Tu as raison là, sur le dernier point. Il y a un risque, enfin, dans un certain nombre de pays, que la leçon qui soit tirée de cet épisode, si on peut dire, c'est qu'il faut retrouver son autonomie économique, réduire sa dépendance, se protéger, relocaliser les productions, etc. Bon, alors, je ne dis pas que ce n'est pas dans cette voie-là qu'il faut réfléchir, mais ça peut constituer, disons, un discours de type, souverainiste, nationaliste, etc., qui morde sur l'opinion, Et ça va être un enjeu d'en proposer une autre. Mais je pense, alors là c'est mon côté pessimiste, mais je pense que ce qu'on va découvrir assez rapidement, il me semble, dans les mois à venir, c'est la violence de la classe dominante. C'est-à-dire qu'elle va y aller à bras raccourcis pour récupérer ce qu'elle a perdu, parce que encore une fois, il faut vraiment penser que elle a vu ses privilèges, ses ressources mises en cause. Et je pense que le problème au niveau plus politique, c'est que la politique, disons ultra-violente, c'est difficile, elle est difficile à exercer, et donc moi, j'ai l'intuition qu'on pourrait aller vers un mélange, justement, à la fois du néolibéralisme et d'un autoritarisme répressif, matiné de petites avancées sociales, essayant de dégager un petit soutien populaire. Il y a un pays qui est étonnant de ce point de vue-là, c'est la Pologne, parce qu'il y a une combinaison de politiques réactionnaires sur le plan des idées, des mœurs, etc. Des politiques néolibérales, c'est-à-dire on accueille les capitaux, on privatise, etc. Mais avec un versant à prétention sociale qu'on ne peut pas balayer du revers de la manche, c'est-à-dire sous forme de prestations, d'augmentation du salaire minimum, etc., qui font qu'il y a une espèce de mix, comme disent les économistes, un mélange entre le néolibéralisme échevelé, éventuellement, répression contre les mouvements sociaux et distribution de petits soutiens qui ne sont pas trop coûteux, mais qui politiquement permettent de sauvegarder un petit peu une image sociale.
Michel, un des problèmes qui apparaît justement moi, sur la transition vers une transition sociale et écologique, et c'est justement le problème de l'emploi. Et le problème de l'emploi qui va être aggravé et amplifié par la crise qui nous vivons actuellement, et c'est compliqué parce que par exemple Renault, quand il disait tout à l'heure, il pourrait aller dans la recherche des hybrides et hybrides, ça veut dire avec électrique, mais électrique, ça pose la question aussi des nucléaires et ça dépend aussi, c'est pas forcément la voiture électrique, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ça qui va permettre de réduire d'avoir une économie, des choses moins carbonées. Ça veut dire il y a quand même et le problème de l'emploi, c'est-à-dire le problème social, on ne peut pas avoir dans une transition écologique, d'abord si on n'est pas capable de décider est-ce qu'il faut produire et que les gens ne se retrouvent pas, et entre, pour ces transitions-là, se retrouver sans emploi. Je ne m'explique pas bien, mais je veux dire, le problème de l'emploi, c'est le problème quand même central.
Oui, bien sûr, et chaque fois qu'on veut prendre un certain type de mesure, on dit oui, mais il faut défendre l'emploi, etc. Non, c'est pour ça que la mise en œuvre d'une transition écologique et sociale, ça suppose des bouleversements considérables. Parce que, effectivement, cette transition va créer des emplois, mais elle va en détruire. C'est-à-dire, si on arrête de produire des 4x4, des grosses bagnoles, etc., ça veut dire qu'on produit moins et donc il y a moins d'emplois de toute manière. Alors les réponses, c'est quoi? C'est un, les réponses hypothétiques, mais c'est une des questions clés, c'est la réduction du temps de travail. Bon, et ça va être un enjeu qui va revenir parce que le projet du patronat et même un certain nombre de décrets qui ont été pris rendre possible le contournement des 35 heures, voire des augmentations de temps de travail comme solution pour repartir, etc. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est ce que les Américains appellent la job guarantee, c'est-à-dire la garantie d'emploi, c'est-à-dire où l'État crée les emplois nécessaires dans les secteurs qui sont déterminés, disons, démocratiquement, souvent à une échelle dans les projets, c'est souvent une échelle locale, quoi, décentralisée, définit ses emplois utiles, nécessaires, et les fabrique, les crée ex nihilo. Mais vous voyez bien, c'est une espèce de renversement total de logique, donc, c'est-à-dire ce qui va déterminer ce qu'est un emploi utile, c'est non pas sa capacité de rapporter de l'argent à son patron, mais c'est son identité sociale. Et pas mal de gens, il y a des aspects positifs, peut-être qui vont se dissiper rapidement, mais beaucoup, notamment Dominique Méda, a fortement insisté là-dessus. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise, c'est la décorrélation, la différence totale entre l'utilité sociale des emplois et leur niveau de salaire. Donc, si vous voulez, on voulait tirer les conséquences de ça, ça serait la création, l'augmentation des salaires de ce type d'emploi et des créations d'emplois ex nihilo, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on décide de créer des emplois et on les finance indépendamment de la logique de rentabilité privée. Mais effectivement, il y a aussi le fait que l'écologie ne sera pas forcément punitive, mais si on veut vraiment amorcer cette bifurcation, cette transition, il faut effectivement des mesures contraignantes, c'est-à-dire interdire strictement un certain nombre de productions et refuser de les maintenir au nom de l'emploi, c'est-à-dire à condition qu'ailleurs il y ait des possibilités de création d'emplois ou de réduction du temps de travail. Mais à chaque fois, si vous voulez, ce qu'il y a derrière tout ça, par exemple la réduction du temps de travail, sans perte de salaire, avec des créations d'emplois, etc., c'est une question, ça comme contrepartie automatiquement, une remise en cause de la répartition du revenu national, des richesses, etc. Ça veut dire que ce qui est visé à travers ça, et le choix qui est fléché de cette manière-là, c'est soit on crée des emplois et donc une masse salariale correspondante, soit on paye des dividendes. Et là, on retrouve derrière les arguments strictement économiques des arguments de pouvoir, c'est-à-dire que ce qu'il faut remettre en cause aussi, c'est le pouvoir de capter une partie de la richesse au profit d'une catégorie sociale très étroite.
Bien, Michel, je crois qu'on a terminé ce qu'on avait à te poser comme question. En tout cas, merci beaucoup d'y avoir répondu aussi complètement. Donc, notre émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter mercredi prochain entre 10h et 11h et puis un petit peu plus tard en podcast sur notre site hebdo-julialaure.info. Merci à toi Claude pour avoir assuré l'enregistrement et à Lucien qui lui va assurer le montage. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Merci Michel.
Merci beaucoup, Michel. Merci à vous tous.